Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde en RTL Soir, saison 2, épisode 15.
Cyprien Signy. Cyprien Signy est là et toute l'équipe est là. Ils sont venus, ils sont tous là. Il y a Céline Landreau, il y a Marie Mollet, Brice Dugénil, Laurent Tessier. Bonsoir à vous tous.
Bonsoir.
Et bien sûr, Cyprien Signy en chef d'orchestre. Vous avez le sommaire peut-être, Cyprien?
Absolument. Survivre sur un radeau au cœur des 40e rugissants. Sauvetage complètement fou sur le Vendée Globe. Immersion au cœur de la sécurité des navigateurs de l'extrême. Valéry Giscard d'Estaing a révolutionné la communication politique en France. Rendez-vous avec l'un des acteurs de cette révolution. Le journaliste, cinéaste Raymond Depardon sera avec nous dans On défait le monde. Qui s'est levé du mauvais pied? Qui a tout perdu cette semaine? C'est le loser, le grand perdant de la semaine de Céline Landreau, qui après sa chronique aura bien du mal à passer ses vacances en Bretagne.
Vous savez vous comment on dit emoji en breton?
Non.
Eh ben eux non plus.
Le billet retour de Brice Dugénil. Fin août, on vous parlait de manifestations monstres en Biélorussie, d'un président contesté.
Et à 3 semaines de Noël, par 0 degré, les manifestants sont encore des milliers.
D'ici 20h, évidemment, vous les adorez, vos 3 infos pour briller au dîner.
Ah oui.
Et dans Marche-Ourée, vous découvrirez que les jeux vidéo peuvent aussi être solidaires. Bien entendu, il y aura un cadeau à gagner, ce sera vers 19h40. Enfin, j'ai un cadeau, c'est carrément une semaine de vacances qu'on vous offre ce soir, oui. C'est Noël tous les vendredis soirs sur RTL. On défait le monde, saison 2.
On y va, on roule pour l'aventure.
C'est l'épisode 15.
On défait le monde dans RTL Soir.
Mais où vont-ils chercher tout ça? Et toute bonne émission dont défait le monde commence par un surf de la semaine. C'est à vous, Cyprien.
Et incontestablement, l'homme de la semaine qu'on a vu partout, bah, c'est le Premier ministre. Allez, c'est le moment Jean Castex de la semaine.
La vie doit être plus forte.
Papy et mamie, aillent chercher les enfants.
Réunion, open space, couloir.
Pas de quoi s'appeler.
Ah, il y a son jingle maintenant. Et alors, nouveauté sur ce Premier ministre qu'on apprend encore à connaître. Jean Castex a déclaré face aux députés cette semaine à l'Assemblée.
Nous devons remettre le chantier sur l'ouvrage.
Le chantier sur l'ouvrage,
il
carrément.
Dans le désordre.
Bon, alors déjà, c'est pas le chantier, hein, mais c'est le métier. Et alors effectivement, c'est pas le métier sur l'ouvrage, c'est l'ouvrage sur le métier. Sinon, ça marche pas. Hein, bon, on se dit, c'est l'émotion, il était devant les députés, il s'est un peu emmêlé le pinceau. Mais le lendemain matin, sur BFM.
Notre rôle, c'est de remettre le métier sur l'ouvrage, d'autant que nécessaire.
Et ouais, il va encore remettre le métier sur l'ouvrage.
C'est mieux quand même, c'est mieux.
Ouais, mais bon, c'est à l'envers. En fait, Jean Castex, c'est...
Il ne connaît pas bien les paroles de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à peu près.
Là, il connaît l'expression, mais pas complètement, quoi. Bon, en tout cas, il était tout content de nous présenter le monsieur vaccin du gouvernement. Et alors, ce qui est bon, c'est que déjà en France, bon, il y a une certaine réticence au vaccin. Mais alors, quand t'écoutes le monsieur vaccin, là, t'es refroidi pour de bon.
Je voudrais néanmoins vous indiquer une notion de prudence. Nous ne disposons que de communiqués de presse. En tant que scientifique, j'attends avec impatience des publications scientifiques. Le recul à ce jour est encore bref. Les données ne sont pas encore complètes non plus pour savoir jusqu'à quel point ces vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque.
Il n'y a pas d'infos, pas de recul, on ne sait pas si ça marche. On dirait qu'ils ont réussi à choisir un anti-vaccin pour gérer la vaccination. Bon, pendant ce temps-là, Gérald Darmanin, lui, continue de nous parler de sa grand-mère. Alors vous le savez, hein, c'est un grand classique, à chaque interview, le ministre de l'Intérieur place une expression de sa grand-mère.
Vous savez ce que disait ma grand-mère?
Je dirais ma grand-mère dans le Nord.
Disait ma grand-mère.
Aurait pu dire ma grand-mère. J'ai bien cité.
Ouais, on a remarqué, oui. Et alors, c'est devenu tellement automatique, ce comme dirait ma grand-mère, que maintenant, eh ben, il le sort même quand sa grand-mère n'a rien à voir avec la choucroute, comme l'année dernière.
Parce que comme aurait pu le dire ma grand-mère, cette phrase n'est pas d'elle. Être dans le vent est le plaisir d'une feuille morte.
C'est-à-dire qu'il en arrive à citer sa grand-mère en disant qu'elle ne l'a pas dit, mais qu'elle aurait pu le dire quand même. Ça doit être un pari avec des potes, c'est pas possible. Sinon, ce soir, 200 millions à gagner à l'euro-million. Mais alors mardi, au loto en Afrique du Sud, il s'est passé un truc de dingue. Alors l'émission démarre, hein. On voit les boules qui commencent à tourner, cette musique entraînante.
Ouais, c'est sympa la musique. Ouais.
Et là, le tirage commence. Le 5.
Ouais.
Le 6.
Ah oui.
Bon, là, le 7.
Non.
Le 8.
9.
Le 9. Et alors attention.
Attention.
Numéro complémentaire. Vous le voyez le numéro complémentaire?
And the Powerball is 10.
Le 10.
Et en
c'est
termes
énorme.
De probabilité, ça doit être quasi nul.
Il fallait donc cocher 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors c'est une première mondiale, hein, dans toute l'histoire des lotos partout. Et bien il y a quand même eu 20 gagnants. Donc une enquête de vérification a démarré. On ne sait pas où ça en est.
20 gagnants.
Ouais, c'est énorme quand même. Bon, sinon cette semaine.
Ça, c'est les feignants au bar. Ils font ça.
Non mais c'est quand même dingue. Sinon on a appris que l'émission culte du sémillant Stéphane Thébault, La Maison France 5, allait s'arrêter. Oh. L'occasion de se remémorer que Stéphane Thébault est quand même un présentateur de génie qui nous avait offert cette scène désormais culte.
Bonjour Sandy.
Bonjour Stéphane.
Comment allez-vous?
Mais très bien, merci.
Pleine forme?
Mais oui, ici à Lauzerte.
Je vous l'avais dit, rendez-vous Esplanade de la Barbacane, c'est facile à trouver, il y a un canon. Moi j'en vois deux.
Oh ouais sexy Stéphane. Bon, enfin on connaît le clip le plus visionné sur YouTube cette année. And the winner is...
C'est pas la capitale, non, c'est Marcel Bébé.
Bande organisée, les rappeurs marseillais qui vont atteindre dans les jours qui viennent les 200 millions de vues. Et là... Vivement la semaine prochaine. Je vous en sceptique sur Bande organisée.
Des fois dans la vie aujourd'hui, il y a des trucs que je comprends pas. Mais,
on n'est pas au-delà du milliard de vues sur certaines vidéos, je comprends pas.
Bah oui, mais là, sur cette année-là, précise, le clip le plus regardé. En France.
En fait, Cyprien a choisi tous les critères pour pouvoir passer
et comme
cette
par
musique.
Hasard, voilà,
non, mais attendez, 200 millions de vues, c'est dingue.
Ouais, d'accord. Que se passe-t-il après, Cyprien, puisque c'est vous qui avez les
rênes? Eh ben, on va parler de la première grosse info de la semaine. Oui. Mais d'abord, il est 19h23.
Ah, bah, on fait une petite pause alors.
Sur RTL.
Alors, on y va. On y va, puisque cette semaine,
sauvetage en mer.
Voilà, cette semaine, sur le Vendée Globe, on a assisté au sauvetage hors du commun du marin Kevin Escoffier. Alors, faut un peu imaginer la scène. On est dans les mers du sud déchaînées, dans les 40e rugissant, il fait froid, il y a des vagues, du vent, rien autour. Et là, le bateau d'Escoffier file comme un oiseau, fend la bise à 25 nœuds et se brise en deux. Le marin se réfugie dans un canot de sauvetage. Et là, au bout de 11 heures d'attente interminable, en pleine nuit, un autre concurrent, Jean Le Cam, s'est dérouté pour aller le récupérer. Histoire folle. Et du coup, Laurent, bah, ce soir, avec vous, on va essayer de comprendre comment ça se passe quand un marin est en perdition comme ça. Quelles sont les solutions qu'il a? Comment ils sont préparés à survivre en cas de gros pépin?
Bah, j'ai pu joindre ce matin le skipper Maxime Sorel. Ah oui, nous suivons dans l'émission depuis le début du Vendée Globe.
Il est bien, non?
Bah, il est au sud du continent africain, là, dans le groupe de tête. Pas mal d'albatros le suivent, d'ailleurs, pour la petite anecdote. Il n'a pas été appelé.
On y est.
Il n'a pas été appelé pour venir en aide à Kevin Escoffier parce qu'il était beaucoup plus loin, mais il me le confiait. Forcément, il y a eu du stress en attendant le sauvetage. Et à ce moment-là, on demande des nouvelles, on lève le pied. Mais il faut savoir que chaque skipper a le même matériel en cas de pépin si le bateau est en train de couler.
On a ce qu'on appelle un radeau de survie, on en a même deux. C'est un peu, il faut imaginer comme une tente de seconde qu'on jette à l'eau et qui vient se gonfler, qui a un petit toit. C'est vraiment des boudins comme un petit pneumatique, quoi. Et on peut se hisser à l'intérieur. Et il faut surtout pas oublier ce qu'on appelle le bidon de survie, dans lequel il y a un téléphone satellite étanche et portable, une VHF et puis un GPS. De la nourriture et de l'eau de survie.
Un bidon de survie que n'avait pas pu prendre Kevin Escoffier.
Et alors, combien de temps on peut tenir avec ce bidon de survie là?
Alors, entre la nourriture déjà présente dans le radeau plus ce qu'il y a dans le bidon, le skipper peut tenir assez facilement 4 jours. Il y a aussi à disposition la combinaison de survie, une cagoule, des gants, des chaussons. Cela permet de résister au froid et on peut se mettre à l'eau, c'est complètement étanche. Il y a surtout un tas de balises de détresse qui permettent d'être détectées par les secours, les avions. Et à partir du moment où on déclenche la balise, on donne le top départ de la chaîne de secours, on donne l'ordre de venir nous chercher. Il y a aussi le flashlight. Bon, une lumière qui flash, facile. Ouais, mode d'emploi avec Maxime Sorel.
On en a sur nous, sur les combinaisons de survie. On y en a aussi sur le radeau. C'est une lumière qui clignote et qui flash assez fort et qui permet d'être détectée par des gens qui nous cherchent. Dans le cas de Kevin, ce qui s'est passé, c'est que la nuit est tombée et en fait, ce fameux flashlight a permis de le retrouver plus facilement.
Et quitter le bateau, c'est évidemment la dernière solution. On est dans le Grand Sud, l'eau est entre 5 et 9 degrés quand même.
Ouais, alors dites-nous, Laurent, est-ce qu'il y a eu des progrès techniques, technologiques ces dernières années?
La sécurité, c'est déjà une problématique qui est très présente chez les marins de course au large. Mais si on regarde l'historique de toutes les décisions, l'origine est souvent un accident. Exemple que nous confie Michel Desjoyaux, double vainqueur du Vendée Globe, le monsieur sécurité, hein, c'est vraiment la référence. Il existe deux radeaux de sauvetage suite à l'édition 2008-2009.
C'était le problème notamment qu'avait eu Jean Le Cam. Son bateau était à l'envers et l'arrière était très coulé. Il n'arrivait pas à accéder à son radeau de sauvetage de l'extérieur. Maintenant, on en a un dehors et un dedans.
Autre innovation, la petite valise de pharmacie.
Par exemple, Yann Eliest, en 2008, il n'a pas réussi à aller jusqu'à sa pharmacie, prendre de quoi se shooter pour limiter la douleur. Bon, bah ça, maintenant, le marin, il a une petite pochette accessible à l'entrée du bateau pour ça.
Ouais, on y trouve donc des antidouleurs, un kit médical d'urgence et de quoi se recoudre. La plupart des médicaments sont rajoutés au fur et à mesure. Autre technologie mise au point pour secourir les skippers, la précision des balises de détresse.
Chaque balise est identifiée par son code hexadécimal. Quand à bord, on déclenche une balise, à terre, ils savent quelle balise a été déclenchée. Est-ce que c'est la balise du conteneur étanche? Est-ce que c'est la balise portable qu'a le skipper en permanence sur lui? Comme ça, en fonction de ça, on peut construire des scénarios de l'accident pour être capable d'encore mieux personnaliser l'approche du sauvetage.
Et très souvent aussi, on peint la coque du bateau de couleur blanche, mais on s'est vite rendu compte que s'il se retourne, s'il est à l'envers, dans la nuit au milieu des vagues, on ne voit rien. Tout simplement, l'orange est alors privilégié, un peu également le rouge et le jaune fluo.
Et alors, pour faire face à ce type de situation, là, les skippers, ils suivent une formation, parce que moi, avec la boîte de médicaments, par exemple, s'il faut que je commence à me faire des piqûres ou quoi, je sais pas faire. Ouais.
Alors, il y a déjà une formation médicale, vous avez raison, on doit apprendre à se recoudre, à s'injecter de l'adrénaline, faire une piqûre d'anesthésie, faire des massages cardiaques, oui, bon, quand on est en solitaire,
c'est plus compliqué. Soi-même un massage cardiaque.
Non, pour les autres, parce qu'il arrive des fois qu'on se retrouve à deux.
Pas en solitaire.
Voilà, quand on est
ou alors quand vous allez sauver votre copain et qu'il est pas bien. Ouais,
dans ce cas précis, il y a aussi des tests de défort, les marins sont formés aux gestes de survie, il y a aussi une formation sécurité, déclencher une balise, monter vite dans un radeau, il y a des remises à jour tous les 4 ans pour les marins de course au large.
Il y a peut-être une préparation mentale aussi,
ouais, non? Forcément, parce que certains en suivent, effectuent un accompagnement mental en amont. C'est le cas du skipper Jérémy Bayou qui a travaillé plusieurs mois avec la psychologue Myriam Salmi. Ça passe par une meilleure connaissance de soi. On parle de sa vie dans le staff, sa vie privée, mais pas seulement.
Ce qu'on peut préparer, c'est la manière de se comporter face au danger. Pour pouvoir utiliser au mieux son cerveau, il faut apprendre à bien la comprendre. Donc on passe aussi par des notions neuroscientifiques. Donc je leur apprends à comprendre comment fonctionne le cerveau, sur quoi on doit agir, la rapidité, la lucidité, toutes les compétences cognitives qui font qu'on va plus vite dans les décisions.
Et il faut avoir vécu aussi des moments intenses, avoir pris des coups pendant la compétition, parler aux anciens. Michel Desjoyeaux a beaucoup parlé justement avec le leader de la course en ce moment, Charlie Dalin, sur la façon de se comporter, de manœuvrer dans des vents très forts. Et pour les nouveaux, il y a un discours qui a son petit effet.
Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans les mers du Sud avant d'aller faire un Vendée Globe, bah, il y a un moment, il faut aussi leur dire, mon gars, quand tu auras 40 nœuds, tu ne seras pas dans la tempête. Il faudra que tu vives avec, il faudra que tu bordes, il faudra que tu règles tes voiles, il faudra que tu fasses avancer ton bateau, que tu bouffes, que tu dormes. Si vous avez besoin d'un préparateur mental pour aller faire le Vendée Globe, vaut mieux pas aller faire le Vendée Globe.
Ouais, le Vendée Globe, c'est sur une question d'expérience.
Ouais. Ça donne envie.
C'est un peu radical.
Non, mais on les admire, évidemment. C'est héros de la mer. Merci beaucoup. Vous êtes prêts à prendre le large, Laurent,
avec vous?
Évidemment, je vous emmène sur mon bateau.
Je suis pas doué pour ça.
Le duo de choc.
Là, je vous attends.
Bon, avant ça, j'ai plutôt envie de briller au dîner. Pourquoi pas ce soir? On va voir comment faire. À tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Je sens qu'on va briller au dîner grâce à Céline ce soir, non?
Absolument.
J'espère. En ce jour de gain exceptionnel pour l'euro million, Cyprien, vous en parlez tout à l'heure, 200 millions d'euros quand même, vous avez joué, on verra si vous gagnez.
Si je reviens pas lundi,
si vous
n'êtes
pas là la semaine prochaine, on saura pourquoi. Mais je voulais pas vous parler de Cyprien, moi je voulais vous parler de Paul Bonnour. Paul Bonnour, le premier millionnaire français, grâce à ce qui s'appelait alors la Loterie Nationale. C'était le 7 novembre 1933. À l'époque, le tirage a lieu au Trocadéro, à Paris donc. Et Paul Bonnour empoche 5 millions de francs, c'est l'équivalent d'un peu plus de 3 millions d'euros aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Et évidemment, les micros se tendent vers le coiffeur de Tarascon pour lui demander ce qu'il va bien pouvoir faire de sa fortune.
Ben, je n'en sais rien encore. Et le magasin, qu'est-ce que vous allez en faire aussi? Pour le moment, je compte le garder. Ah, ça c'est bien alors. Mais alors, cette fortune alors? Je ne sais pas ce que j'en ferai. Ah ben, vous n'êtes pas encore décidé quoi? Non, je n'ai aucun projet.
Voilà, il savait pas encore ce qu'il allait en faire.
On était bien Tarascon. Hein.
Mais finalement, il a vendu son salon, Paul Bonnour, embêté en fait le reste de sa vie par les importants. Il a regretté d'avoir été médiatisé. Depuis, on le sait, les gagnants se font souvent bien plus discrets.
Donc, si je veux briller au dîner, qu'est-ce que je dis ce soir? Je dis que le premier gagnant du loto, c'était un coiffeur de Tarascon.
Ça, ça veut dire que c'était pas une bonne info.
Voilà. Bon, on verra.
Il a vendu son salon surtout. Ah bah ouais, ça vous laisse sans voix.
Bah là, on est vraiment
Allume la lumière.
Allume la lumière, c'est quand un expert vient nous éclairer sur l'actualité, vous éclairer. Et ce soir, eh bien, on revient évidemment sur l'événement de la semaine, la disparition de Valéry Giscard d'Estaing.
Bah oui, parce que depuis mercredi soir, on entend que Valéry Giscard d'Estaing a révolutionné la communication politique en France.
Premier président médiatique, premier président cathodique qui s'est inspiré du fringant Kennedy.
Et donc, pour mieux comprendre son rapport aux médias, on a contacté ce soir l'homme qui a filmé la première campagne présidentielle de VGE en 74. Giscard rêvait d'un film à sa gloire, mais tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque le film a été interdit pendant 28 ans quand même. Bonsoir Raymond Depardon.
Bonsoir.
Alors vous avez réalisé le premier film de campagne en France, ça s'appelle Une partie de campagne. Vous avez donc été au cœur de cette volonté médiatique de Giscard dont on parle depuis plusieurs jours. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes retrouvé à suivre le candidat VGE?
Ben, je répondais à une commande et j'ai pris un avion un jour avec lui de Villacoublay pour Clermont-Ferrand le 7 avril et il allait se porter candidat. L'hôtesse nous a proposé un champagne. Il a commencé à me parler, et moi aussi, je crois qu'on était tous les deux un petit peu sous. Je me suis dit, peut-être c'est l'occasion, et je lui ai parlé forcément de ce film sur Kennedy, et il était très sensible, bah bon, etc., en 1960, oui, parce que, en fait, tout démarre de là, dans l'histoire du photojournaliste et du cinéma de l'image, c'est 1960, la campagne de Kennedy.
Et il vous avait donné un cahier des charges avant d'accepter, ou pas? Il y avait des choses qu'il voulait pas, il vous avait prévenu, bon. Vous avez donné des consignes?
Il m'a dit, est-ce que vous filmez bien mes discours? Alors moi, je ne voulais pas filmer ces discours, parce que je savais très bien, parce que j'avais assisté à des réunions, que les discours étaient écrits par des grands professeurs de la Sorbonne, ou je ne sais pas de quoi, sur des thèmes précis, l'emploi, voilà, etc., etc. Moi, je ne lui ai pas dit que j'allais faire un film d'auteur, et que ce que je voulais, je lui ai dit, il faut tourner. Moi, mon idée, c'était de tourner, parce que le candidat est un tout petit peu déstabilisé, et c'était le cas de Giscard, il n'avait jamais fait de campagne de sa vie. Et il s'est retrouvé au milieu des foules comme ça, qui l'applaudissaient, qui lui souriaient, qu'il embrassait les bébés, il embrassait les petits garçons, enfin, vous imaginez Giscard à l'époque, c'était un commis d'État, un grand monsieur. Alors, bien sûr, comme Auvergnat, on le connaît, et il m'a dit, ça coûte cher.
Ce film, il a été... censuré très longtemps. Comment ça s'est passé quand Valéry Giscard d'Estaing l'a découvert, quand vous lui avez montré le résultat de votre tournage?
Ben, je crois qu'il était tiraillé, parce que c'est quand même un film où pendant une heure et demie il est à l'antenne. Il était venu me voir à la salle de montage. Il voulait toujours couper quand il était de dos, etc. Et il a trouvé ça très violent, quoi, à l'époque. Il m'a dit c'est violent. Il n'y avait pas d'interview, il n'y avait pas de voix off qui venait rassurer les gens. Il y avait du synchrone comme ça, il était à l'écran, à l'image, tout le temps, tout le temps. Il me dit, je parle comme ça dans la vie. Et donc, il s'est retourné vers le projectionniste. Il lui a dit, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Puis le projectionniste, un jeune qui a répondu, be, et qui n'avait pas non plus compris ce film, parce que c'était un peu nouveau pour l'époque.
Est-ce que dans cette stratégie de com' de Giscard, vous pourriez dire que vous avez un peu essuyé les plâtres?
Oui, bien sûr, parce que j'étais très longtemps censuré, enfin le mot est un petit peu fort, mais...
Bah oui, votre film n'est pas sorti en fait.
Voilà, il n'est pas sorti, oui, il a été au purgatoire, comme il disait. Moi, quand j'avais le film, parce que j'avais le droit de le projeter le film, j'avais demandé, à l'époque, je fasse payer les entrées. Donc je le montrais à des grands journalistes, à des décideurs, à des... Ils disaient, mais pourquoi vous censurez ce film? Il est très bien, qu'est-ce que vous avez? Alors, donc du coup, ça lui remontait quand même.
En tout cas, merci Raymond Depardon, c'était passionnant de s'entretenir avec vous.
Mais voilà, c'est un grand plaisir.
Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
À suivre dans On défait le monde.
Votre deuxième info pour briller, vous découvrirez le loser de la semaine et la question du jeu. Get 19h38, à tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
La deuxième info pour
absolument.
Briller au dîner. Hein.
C'est Brice qui s'en occupe, il va nous parler de Coluche et Giscard.
Oui, absolument. Souvenez-vous de ce que Coluche disait de Valéry Giscard d'Estaing.
Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul. Giscard, on me dirait qu'il y a du vent en ce moment-là. Bon.
Moi, je demande l'asile politique à la Belgique s'il est réélu Giscard d'Estaing.
S'il est réélu Giscard, je demande l'asile politique à la Belgique. Hiver 82, Giscard d'Estaing n'est plus président. Il est en vacances à Courchevel. Et Coluche aussi est à Courchevel. Il tourne le film de Bertrand Blier avec Isabelle Huppert, la femme de mon pote. Et Giscard souhaite rencontrer Coluche, alors il l'invite dans son hôtel et il s'adresse à lui avec cette phrase... Pourquoi vous m'en voulez autant? Voilà, très bonne imitation, catastrophique. Coluche, un peu gêné, lui répond « Je sais que je vous ai fait du tort, monsieur Giscard d'Estaing, je suis désolé, je voulais pas vous en faire. » Et il précise « Ce n'est pas l'homme Giscard que j'attaquais, mais l'institution présidentielle. » Un lien se crée alors entre les deux hommes dans cet hôtel de Courchevel, une sorte de respect mutuel. Giscard dira d'ailleurs à plusieurs reprises encore récemment qu'il appréciait beaucoup Coluche et il aidera Coluche, quelques années plus tard, a créé les Restos du Cœur.
Alors ça, Coluche et Giscard qui étaient potes, ouais, c'est une bonne info.
C'est vrai que c'est étonnant.
Alors il dit ça en regardant Céline Landreau du genre par rapport à celle d'avant.
Oui,
ouais,
c'est
à laquelle on n'a rien compris, c'est ça qu'il est en train.
Celle-là était bien, mais peut-être qu'on va pouvoir se rattraper avec le loser, non?
RTL. Le loser.
heures de la semaine.
Parce que c'est l'heure de désigner le grand perdant de la semaine.
Aucune faille, aucune faiblesse ne lui échappe. Et de sa plume aiguisée, elle touche Céline. C'est bon ça. Votre grand perdant.
Ah, il est content de lui. C'est bien, ça va, ça.
Votre grand perdant de la semaine pensait conquérir le monde. Bah, c'est raté. Hein.
Alors, je sais que d'habitude, vous aimez vous gausser dans cette chronique.
Ah, bah, on se gausse beaucoup. Oui,
grâce à vous, Céline.
Moquer celui ou ceux qui ont raté leur semaine. Mais ce soir, je vais vous demander un peu de compassion. Car oui, la Bretagne souffre, incomprise par les GAFA, incomprise par le consortium Unicode. Les Bretons ont perdu leur bataille, le Guenadou n'est pas devenu un émoji. Pourtant, la mobilisation a été forte en Armorique. Dès l'an dernier, plein d'espoir, les Bretons lançaient leur campagne.
Demat Derhol, bonjour à tous. Je suis Loïs, le premier chef de projet émoji du monde. Émoji. Vous savez, les petits dessins qu'on intègre à nos textos, à nos emails, etc. Ils sont sympas, hein. Mais vous trouvez pas qu'il manque un truc, là? Où est le drapeau breton? Il nous le faut vraiment, ce drapeau breton. Et pas seulement chez nous, mais aussi sur les 5 milliards de smartphones dans le monde. Alors, prêt à faire rayonner la Bretagne dans le monde entier?
Eh oui, ils étaient prêts, les Bretons. Plus de 22 000 euros récoltés pour promouvoir leur drapeau, des centaines de milliers de mentions sur les réseaux sociaux avec ce hashtag emoji BZH. Même les plus grandes stars, les grands amoureux de la Bretagne ont donné de la voix comme PPDA.
Donc vous l'avez compris, il faut se mobiliser, vive la Bretagne, vive l'émoji.
Mais rien n'y a fait. Le consortium américain Unicode, qui valide la création de nouveaux émojis, n'a pas été sensible à l'appel de l'ancien présentateur star du 20h. Le Guenadou a été recalé. Il ne sera pas sur 5 milliards de smartphones dans le monde. Désillusion pour les Bretons. Heureusement, il reste les fondamentaux et cette certitude. Dès que les stades retrouveront leur public, dès que les festivals pourront reprendre...
Avec un drapeau breton.
Ouais, voilà, chaque fois qu'il y a un concert, n'importe même quoi. Une manifestation, on sort le drapeau breton. Toujours. Et je ne vous parle pas des autocollants à l'arrière des voitures, évidemment. Bon, ben, pas d'émoji breton, mais peut-être une prochaine fois, ils vont relancer le combat.
Je suis pas sûr qu'il s'arrête là. Ouais.
Voilà, bon,
en tout cas, Unicode, ils ne connaissent pas Patrick Poivre d'Arvor.
Non. Étonnant, non ouais. Il est de tous les combats, Patrick. On joue, on a un cadeau pour vous, peut-être.
Oui,
un
ami. Vous rêvez de couper, de déconnecter, vous rêvez de vacances, mais gratuites, à l'œil. Eh ben, ça tombe bien, nous avons ce qu'il vous faut.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Eh oui, puisque dans On défait le monde, il y a Grégory Carannoni, réalisateur, et Monsieur Cadeau.
Ah.
Alors Greg, qu'est-ce que vous nous avez dégoté pour nos auditeurs?
Eh bien, vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est...
Black Friday.
C'est le Black Friday, mais dans On défait le monde, il n'y a pas de cadeau au rabais. Alors, ouais. Montagne, océan, campagne, Méditerranée, Azureva vous offre ce soir une semaine de vacances pour 4 personnes dans un de ses villages vacances. Ce sera un séjour en pension complète ou en demi-pension en fonction du village que vous choisirez. Vous profiterez de la nature, des grands espaces et d'un emplacement idéal pour un séjour au ski ou une randonnée d'été. Alors en tout cas... Ah oui, c'est de bonne guerre. Quelles que soient vos envies, vous vivrez une expérience unique avec Azureva. Plus d'infos sur azureva-vacances.com et dans le timing.
Dites la Dream Team, oui, j'ai le droit de participer moi aussi?
Non.
Non.
Il n'a pas le droit.
Il y a peut-être une question, Cyprien.
Bah oui, exactement. Quelle est la question? La fameuse question dont défait le monde.
Je ne savais pas s'il avait fini. Avec quel type, alors, on parlait du Vendée Globe. Avec quel type de bateau les marins du Vendée Globe font-ils le tour du monde? Est-ce que c'est A, un monocoque, B, un œuf à la coque, ou C, un Yves Lecoq?
C'est prise.
Non, c'est désespérant.
Je sens que vous êtes un peu affligé, Vincent.
C'est prise du génie qui a fait la question. Avec quel type de bateau les marins du Vendée Globe font-ils le tour du monde? Monocoque, œuf à la coque ou Yves Lecoq? Vous avez la bonne réponse, vous appelez le 3210, on tirera au sort parmi les gagnants et on essaiera d'appeler le gagnant à la fin de l'émission.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde et c'est l'heure du billet retour. Là, on va peut-être remonter un peu le niveau. Le billet retour, c'est le droit de suite quand on revient sur une info qui a fait la une et qui a disparu un peu de l'actualité.
Et ce soir, retour en Biélorussie. Souvenez-vous, cet été, le 9 août, le président Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans, était réélu avec plus de 80% des voix. Ça en était suivi des manifestations monstres dont on vous avait beaucoup parlé.
En Biélorussie, un mouvement de protestation historique dans le pays.
L'opposition manifeste contre les résultats de l'élection présidentielle.
Ils étaient une nouvelle fois des dizaines de milliers à descendre dans les rues de Minsk.
Le président contesté, Loukachenko, ordonne au gouvernement d'empêcher les troubles et de renforcer les frontières.
Une répression grandissante des manifestations interdites. Ça, c'était début septembre. Alors, trois mois plus tard, Brice, il se passe quoi en Biélorussie? On a l'impression que c'est terminé.
Eh bien non, les manifestations n'ont pas cessé. Chaque dimanche, les habitants de Minsk et des autres villes du pays sortent dans les rues malgré le froid. Désormais, les revendications sont toujours les mêmes. La démission du président Loukachenko, l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle libre et transparente. Et désormais, il y a une autre demande, c'est la libération des prisonniers politiques de tous les manifestants ou membres de l'opposition qui ont été arrêtés. Puisque face à cette mobilisation qui se poursuit depuis plus de 100 jours, eh bien le pouvoir s'est durci. Il y a eu près de 30 000 arrestations qui ont été enregistrées dans les cortèges depuis le début du mouvement.
Et la communauté internationale, elle dit rien ?
Alors, ce matin encore, Michelle Bachelet, qui est haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, vous savez, c'est l'ancienne présidente du Chili, s'est exprimée sur la situation.
Since 9 of August, more than 27,000 people have been arrested.
Elle dénonce un usage disproportionné de la force, des milliers d'arrestations, 4 morts dans le cadre de ces manifestations, des pratiques qui relèvent de la torture dans les prisons, des policiers cagoulés, impossibles à identifier, et plus de 2000 plaintes qui ont été déposées contre l'État, mais aucune enquête n'a été ouverte. Alors, les Nations Unies et d'autres nations s'interrogent et demandent au président Loukachenko de changer cette stratégie mortifère.
Alors, l'Europe n'a pas reconnu le résultat de cette élection, mais ça n'a pas suffi.
Non, en fait, la pression européenne, elle ne suffit pas parce que tout le monde n'est pas totalement d'accord au sein de l'Union sur ce dossier biélorusse. Pourtant, les manifestants et l'opposition à Loukachenko appellent régulièrement Bruxelles à un soutien fort dont ils partagent notamment les valeurs démocratiques. L'autre espoir, il se trouve aux États-Unis, nouveau président, Joe Biden, donc nouvelle administration, et ça suscite un espoir parmi les manifestants. Mais Cécile Vessier, qui est professeure des études russes à l'université Rennes 2, craint que le scénario du sauveur américain soit improbable.
Depuis Obama, il y a une volonté de ne plus intervenir, un petit peu comme le gendarme de l'Europe. Donc, au Bélarus, je vois bien des déclarations, je vois des déclarations de principe, je vois des déclarations de soutien. Est-ce que ça ira plus loin pour un territoire qui n'a pas de gros impacts géopolitiques, économiques ou autres? Je ne pense pas.
Mais alors, on imagine que les Russes aussi, ils suivent ça de près.
Bah oui, c'est peut-être plutôt de ce côté d'ailleurs que se trouve la clé, le déblocage. Vladimir Poutine, en fait, commence à s'impatienter. Selon un récent sondage, l'image de la Russie est de plus en plus mauvaise au Bélarus, ce qui ne plaît pas du tout au Kremlin.
Ça fait un moment que M. Loukachenko irrite considérablement le Kremlin, parce qu'il a essayé de jouer sur les deux tableaux, à la fois sur la Russie, sur l'Union européenne. On voit aussi que est en train de monter au sein de la population du Bélarus un rejet de la Russie qui n'existait absolument pas avant. Donc ce qui pourrait se passer, c'est que le Kremlin décide de remplacer Loukachenko par l'un de ses opposants qui sont des gens pro-Kremlin, mais qui peuvent incarner un changement aux yeux de la population.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était d'ailleurs en visite la semaine dernière à Minsk pour faire comprendre clairement à Loukachenko qu'il devait trouver une solution et rapidement, si possible, pour un retour à la normale. Mais la Russie, si la Russie venait à lâcher Loukachenko, on comprend bien que ce serait pas forcément pour faire plaisir aux manifestants ou organiser de nouvelles élections, mais bien pour conserver son influence au sein du pays.
Et en attendant, les manifs continuent.
Les manifs continuent tous les dimanches et tous les lundis, même avec les personnes âgées qui manifestent tous les lundis contre le pouvoir de Loukachenko.
En Biélorussie ou au Bélarus, parce que c'est pareil.
Alors c'est pareil, c'est le même pays, simplement la Biélorussie renvoie un passé de domination russe et à l'Empire soviétique. Le Bélarus est plus actuel, au moins selon les contestataires.
Alors on a tout compris et dans un instant on va briller au dîner.
On défait le monde sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Et c'est même l'heure de la dernière info pour briller au dîner, signée Marie Mollet. Marie, vous nous emmenez une journée en Italie.
Oui, est-ce que vous savez quel livre s'est hissé en tête des ventes en Italie cette semaine ?
C'est l'ENA Situation comme en France.
Non, c'est pas l'ENA Situation. C'est un petit ouvrage de 110 pages, couverture austère, avec ce titre « Pourquoi Matteo Salvini mérite notre confiance, notre respect et notre admiration ?» Alors, a priori, c'est un traité à la gloire du leader italien d'extrême droite, sauf que le livre renferme une surprise. À l'intérieur, 110 pages blanches. Pas une ligne, pas un mot, du génial. Vide. Alors la blague est signée par un certain Alex Green, analyste politique d'après la couverture, qui explique le canular. Malgré des années de recherche, nous n'avons rien trouvé à dire sur ce sujet. La farce fait un carton sur Amazon en Italie. Et si vous avez du temps à tuer, je vous invite à lire les commentaires hilarants laissés sur le site. Cette œuvre majeure jette les bases d'une Italie nouvelle. Enfin, une plongée dans la pensée complexe de Salvini. Alors écoutez, en France, on attend avec impatience la traduction.
Oui,
pas mal.
Pour briller, c'est bien. Et même pour offrir, hein, pour Noël, absolument. Bonne idée de cadeau.
Marche ou rêve.
Ouais, ça, c'est votre moment quand on met en valeur vos projets, vos initiatives les plus originales.
Et tout au long de cette saison, on vous présente des auditeurs qui prennent des décisions radicales. Ce soir, Laurent, vous nous présentez une histoire de jeu vidéo.
Oui, je vous présente Florent, ancien casque bleu, 44 ans. Il s'est reconverti dans l'immobilier. Il a lancé un jeu vidéo gratuit pour smartphone, Tao, T-A-W-O. Il est déjà disponible en téléchargement. Objectif, financer des repas pour les enfants les plus démunis, hein, qui souffrent de malnutrition dans le monde. Bonsoir, Florent.
Bonsoir.
Comment vous est venue cette idée ?
Merci Cyprien, merci RTL. Comment m'est venue l'idée avec mes enfants qui sont à côté de moi au Panama il y a déjà 6 ans.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire ben, qu'avec mon fils Tony, on a décidé ensemble de créer un héros solidaire et c'est de là qu'est venue l'idée petit à petit de créer un jeu mobile. Mmh.
Alors expliquez-nous comment fonctionne le jeu une fois qu'on l'a téléchargé, on accompagne le héros ?
Tout à fait. En fait, l'idée, le héros, c'est vous, hein, c'est tout le monde. Donc, c'est Tao. C'est un héros solidaire qui organise un marathon virtuel pour collecter un maximum de repas pour offrir dans la vie réelle. En fait.
Et alors, quelle est notre mission pour offrir ces repas aux enfants ?
Jouer. Jouer, participer, prendre soin de Tao. Ouais.
Mais comment ça marche, en fait ? Comment, en faisant un jeu, on récupère des vrais repas ?
Alors comment ça marche ? Ben déjà il faut le télécharger. On peut le télécharger sur iOS et Android. Mmh. C'est un jeu gratuit qui va permettre d'offrir des repas. Alors dans la vie réelle, par de l'achat intégré ou des partenariats qu'on est en train de tisser avec des entreprises éco-responsables.
Ce que vous appelez l'achat intégré, c'est-à-dire que le téléchargement il est gratuit, mais que derrière on peut acheter des petites choses, c'est ça ?
Tout à fait. Voilà, vous allez pouvoir acheter des petites choses pour pouvoir le customiser, pour pouvoir courir plus vite, pour pouvoir apprendre davantage de choses, pour découvrir le monde avec lui.
Mmh. Vous avez lancé une campagne de financement participatif, c'est ça ?
Tout à fait. Sur KissKissBankBank, Tao est avec KissKissBankBank et il court avec KissKissBankBank, tout à fait.
Et l'objectif en nombre de repas, ça serait quoi, l'idéal ?
Alors, pour la campagne, ça serait 10 000 repas. Et l'idéal, c'est d'aller chercher un partenariat fort avec le Programme Alimentaire Mondial, l'ONU, 500 000 repas.
T-A-W-O.
Tao,
voilà.
L'application à télécharger.
Bravo, merci beaucoup.
Merci à vous.
On a un gagnant ?
Ah, on a un gagnant.
Pour le jeu.
Quelqu'un qui aurait trouvé la bonne réponse.
Mais j'espère bien pour lui, on va voir. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir tout le monde, bonsoir à toute l'équipe.
Comment ça va Jérôme ?
Ah bah ça va super bien, alors là je suis super heureux.
Attendez, vous n'avez pas gagné. Comment ça,
parce qu'il y avait un piège dans la question.
Comment s'appellent les bateaux du Vendée Globe ? Est-ce que ce sont les monocoques, les œufs à la coque ou les Yves Lecoq ?
Alors je pense pas que ce soit Yves Lecoq, mais c'est le monocoque.
Bravo, vous avez gagné.
Il est trop fort, Jérôme. Et qu'est-ce qu'il a gagné ?
Jérôme, il n'est pas seul, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que vous gagnez une semaine pour 4 personnes. Alors vous en mettez qui vous voulez, hein. Enfin vous plus 3 personnes quoi. Et c'est où vous voulez, à la montagne ou à la campagne. Profitez-en et envoyez-nous une carte postale.
Voilà, mais profitez bien avec vous là, vous ne pourrez pas amener tout le monde. Profitez bien, bravo Jérôme.
Merci à toute votre équipe et merci pour vos bons moments.
Ciao, à
merci
bientôt.
À
merci de votre fidélité à RTL et à On défait le monde le vendredi soir. Merci les amis.
Ciao,
merci.
Ciao.
Dites donc la grosse voix, vous voulez me dire quelque chose ?
À la semaine prochaine, la Dream Team. Yeah, au revoir.
Allez, à tout de suite pour le flash.
On défait le monde dans RTL Soir.